Radio Kapi.
Le journal Nico Kalambay. À la une de cette édition, 3 personnes tuées et 13 autres blessées. Tel est le bilan de l'incursion des miliciens de la Codeco dans le territoire de Djougou. Le meurtre d'un jeune dans la zone serrée à la base de ces affrontements. Les agents et cadres des divisions provinciales des finances et de budget à Bandundu sont en grève. Ils réclament le retard de 3 mois de la prime complémentaire de rétrocession. Dans ce journal, vous écouterez le président de l'intersyndicale de ces 2 divisions. Et puis l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, UFA, réclame plus de justice pour le droit foncier des peuples pygmées. Pour en parler, nous recevons la présidente d'une association des autochtones pour l'émancipation de la femme pygmée sur les droits fonciers de peuples autochtones. Bienvenue à tous. Ce journal part de l'Ituri où 3 personnes ont été tuées et 13 autres blessées lundi par un groupe des miliciens de la Codeco au village de Garoua, en chefferie de Mambisa dans le territoire de Djougou. Des sources concordantes rapportent que cette attaque s'est produite pour venger le meurtre la veille d'un jeune dont la zone. De nombreux habitants ont abandonné leur domicile dans plusieurs villages proches du lieu du drame. Isaac Remoyope.
Ces miliciens de la Codeco seraient venus de la localité voisine de Mbaou au groupement Zina dans le secteur de Walendu Dati. Ils ont fait incursion dans la localité de Garoua en représailles au meurtre d'un assaillant par des hommes armés identifiés au groupe d'autodéfense appelé Zahir. Ces miliciens ont surpris certains habitants au champ. Parmi eux, 3 personnes ont été tuées, dont une femme. Ils ont ensuite envahi le village de Garoua en chefferie de Mambisa. 12 personnes ont été blessées soit par balle, soit à coups de machette. Elles sont admises dans une structure sanitaire à Gaya. De son côté, le président des jeunes de cette entité coutumière avance un bilan de 5 morts, dont les corps ont été retrouvés ce mardi après l'attaque des 5 miliciens de la Codeco. Des sources locales renseignent que toute la population de Garoua a trouvé refuge ailleurs. Cette attaque de la milice Codeco a également entraîné les déplacements des habitants des villages proches, notamment de Goïkba et Nizi, chef-lieu de cette chefferie. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité, c'est également ces coups de feu entendus hier à Rubanda et Karewa 2. Nous sommes au sud Kivu, à environ 20 km au nord-ouest de Minembwe Centre, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, où des affrontements ont opposé une coalition Maïmaï aux Triroanéo et alliés. Depuis le week-end dernier, le vol des vaches par les Maïmaï est à la base de plusieurs échanges des tirs dans cette région des hauts plateaux, où 2 soldats des FARDC ont été tués et 6 autres blessés lors d'une intervention dans les combats à Kabingo et Biziba. Fiston Goma.
Des sources locales rapportent que 4 éléments tuguaneux et alliés ont été blessés dans les combats du week-end à Kabingo et Kiziba. Les tuguaneux avaient attaqué un mouvement de Maïmaï au village de Kiziba, mais ces derniers les ont repoussés vers Kabingo. Alertés de ces affrontements, les FRDC sont intervenus. Le commandant des FRDC sur l'axe opérationnel de Minembwe, le général Dédoné Moïma, affirme que des informations avaient fait état des infiltrations d'une 60aine d'éléments tuguaneux Makanika à Minembwe centre et ses environs. Cet officier des FRDC met en garde de traquer, traduire devant la justice tout celui qui les héberge dans le village pour participation ou assistance indirecte aux groupes armés. Une opération de bouclage est envisagée dans des zones ciblées, signale la même source militaire. Des tirs sporadiques étaient encore entendus ce lundi vers Kawira 2 et Rubanda, où des Maïmaï pourchassés par les Tuguaneo ont disparu dans la brousse avec le vache volé dans des pâturages. Les membres du comité local de protection, les notables et les acteurs de la société civile dénoncent ces affrontements et la présence des groupes armés qui empêchent l'accès aux grandes activités agricoles et commerciales dans la zone. D'Ouvira Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, un autre changeur de monnaie a été tué par balle dans la soirée de lundi 15 mars à Goma. Cette attaque par des bandits armés ciblant les cambistes et qui n'est pas la première préoccupe la corporation des changeurs de monnaie. Cette dernière parle d'un 3e cas d'assassinat de ce genre depuis le début de l'année. Mathieu Ilunga Chamboui revient sur cet événement.
Joël Baba, marié et père d'une famille, habitant sur l'avenue Bukowe, au quartier Katoï dans la commune de Karisimbi, a été abattu par balle au centre-ville de Goma, dans les environs de l'hôpital Île Africa. Selon le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi, le drame a eu lieu vers 19h locale. La victime quittait son lieu de travail pour rentrer à son domicile quand, à quelques mètres de sa résidence, les bandits lui ont tiré dessus. Il est mort sur les champs, indique Claude Rougo, président de cette structure. structure de la jeunesse. Cette situation inquiète toute la corporation de Cambis de la ville qui se voit de plus en plus la cible des attaques commises par des braqueurs et d'autres criminels. Plusieurs changeurs de monnaie deviennent de plus en plus irréguliers sur leur lieu d'activité. Il y en a même qui ont carrément abandonné ce métier, nous dit un des membres de cette corporation. Le conseil communal de la jeunesse, qui condamne cette situation, demande à l'autorité urbaine de réorganiser cette corporation et définir des mécanismes pour la sécurisation de ses membres. Mathieu Ilunga Chambo Monatiebe, Goma, Radio Okapi.
Lutte contre l'insécurité, mais cette fois-là à Kananga. Le bourgmestre de la commune de Kananga encourage sa population à se doter des Motorola radio mobiles. Il l'a dit ce lundi à Radio Okapi. Raphaël Kasonga est d'avis que ces appareils vont sans doute faciliter la communication et permettre à la population de déjouer les attaques des bandits. Cette initiative a déjà été lancée sur la localité Snell, en commune de Kananga, a-t-il ajouté. Raphaël Kasonga Bilolo, micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous procédons maintenant par l'achat des Motorola pour la communication. Nous commençons par l'une des localités qui constitue le quartier Malongi, donc l'ex-localité Snell. Nous sommes réunis avec les habitants, nous sommes dit pour couper court à cette histoire. Maintenant que les malfaiteurs sont en train de nous emboîter le pas en cherchant les vuvuzelas, les sifflets, nous maintenant nous changeons de stratégie, nous changeons de fusil d'épaule. Nous allons acheter des Motorola de telle manière que une fois qu'il y a un événement dans cette localité, on se parle. Une fois que je parle par exemple à un voisin, l'autre m'écoute parce que quand le voleur vient, il voit qui il veut parce qu'il veut opérer. C'est ainsi que nous avons seulement convoqué ces habitants du quartier Snell et du choc des idées jaillissant la lumière, l'idée est venue que l'on s'achète chacun une Motorola et on peut communiquer la nuit et même les patrouilleurs, ils sont informés à la même minute et puis les malfaiteurs, ils peuvent se retrouver en étau.
Au Nord Kivu, l'auditorat supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu basée à Beni a arrêté hier lundi 3 officiers FARDC, un responsable de la sous-station de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICSN de Mutsura dans le secteur de Rwenzori, 3 militaires FARDC, 2 éco-gardes et 2 civils. Selon des sources sécuritaires et judiciaires, ces personnes sont poursuivies pour vente et trafic des munitions de guerre dans la région de Beni. Dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, les agents et cadres des divisions provinciales des finances et des budgets ont décrété lundi 15 mars 2021 une grève sèche. Le président de l'intersyndicale de ces deux divisions fait savoir que cette grève intervient pour réclamer le retard des 3 mois de la prime complémentaire de rétrocession de ces agents. Kalutu Nzoko Atu appelle le gouvernement à résoudre ce problème afin qu'ils reprennent le travail. Le point avec Irène Boma.
Ces agents et cadres de la division provinciale des finances et celle des budgets du Kwilu qui ont débuté leur grève ce lundi à Bandunduville s'appuient sur les mots d'ordre récits de leur hiérarchie au niveau national, leur instruisant de sceller les bureaux. C'est ce qu'a déclaré le président de l'intersyndicale des CD services, Kalutu Nzoko Atu. Selon lui, ces grévistes réclament au gouvernement national la paye de 3 mois de la prime complémentaire de rétrocession telle que prévue sur les listings d'octobre, novembre et décembre dernier pour les agents des services des finances et des budgets.
Nous avions remarqué avec amertume, nous sommes en retard de paiement des mois d'octobre, novembre et décembre. Donc c'est ainsi, nous avions vu que non, nous devons exécuter le mot d'ordre de Kinshasa qui nous a demandé d'être dehors, sceller les bureaux. Donc c'est ainsi, nous sommes dehors. Nous réclamons les paiements supplémentaires de nos primes. Au gouvernement qu'on nous paye notre prime, là, les compléments des primes. On a envoyé les listings qui est ici avec nous, ça fait vraiment plusieurs mois, mais l'argent ne nous arrive toujours pas.
Pour ces agents et cadres des divisions provinciales des finances et des budgets presque en colère, cette grève ne prendra fin que si leur réclamation est prise en compte par les autorités attitrées. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Maniema, les agents des divisions provinciales des finances et du budget sont en grève depuis lundi. Ils réclament le paiement de leur salaire de 6 mois à l'État congolais. Les grévistes sollicitent l'implication du président de la République avant la reprise des activités. Je vous propose d'écouter le représentant de la force syndicale nouvelle, Maître Kimambe Kangela, au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes entourés par les agents des budgets et finances en train de réclamer le paiement des arriérés de salaire de 6 mois. Nous déclarons auprès de l'État congolais qui, à un certain moment, après avoir épuisé toute la procédure sur la chaîne de dépenses, le gouvernement ne veut plus libérer notre argent de 6 mois. Partout en République démocratique du Congo, ce mouvement de grève est lancé. Jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que le gouvernement congolais va donner notre argent de 6 mois, va payer sans doute l'argent de 6 mois. Pas plus, pas moins. Les bureaux sont fermés et tout le monde doit rentrer chez lui à la maison. Il n'y a pas de travail. Jusqu'à ce que le gouvernement congolais décaisse notre argent. Tous les ministres ont signé, celui des finances, celui des budgets. Même le gouverneur de la Banque centrale avait déjà accepté de libérer. C'est seulement la nouvelle condition qu'il y a. Il faudrait que la présidence accepte de libérer l'argent. Pourtant, lorsque toute la chaîne de dépenses est déjà effectuée, c'est fini. On doit libérer l'argent.
Revenons sur cette information. Dans la province du Sankourou, reprise ce mardi des activités commerciales au grand marché de Lodja. Cette reprise est consécutive à l'intervention du gouverneur de province, Stéphane Mukomadi, qui a instruit l'administrateur du territoire de Lodja de sursoir à sa décision de faire payer la taxe journalière d'étalage aux marchands. Suite à cette décision, les activités commerciales au grand marché de Lodja et dans toute cette cité ont été totalement paralysées hier lundi. Des explications avec vous, Esther Ndalafina.
Le marché a été ouvert ce mardi depuis 7h du matin, affirment certains marchands qui y exercent. Les propriétaires des boutiques, des pharmacies et des dépôts de vente des produits vivriers ont de nouveau ouvert leurs portes au public. L'ambiance était presque festive ce mardi matin, mais la pluie est venue gâcher l'affaire. Hier lundi, les commerces étaient fermés. Les marchands de Lodja se sont insurgés contre le paiement de la taxe journalière d'étalage fixée à 200 francs congolais, ce qui fait 1400 francs la semaine. Cette taxe exigée par l'administration du territoire avait été suspendue depuis bientôt 5 ans, affirment certains marchands. La colère des vendeurs avait pris de l'ampleur. Certains étaient déjà dans la rue pour manifester leur mécontentement. Saisis par les services de l'ordre, certaines sources affirment que le gouverneur de province, Stéphane Mukomadi, a instruit l'administrateur du territoire de sursoir à sa décision de faire payer la taxe journalière d'étalage. Certains marchands souhaitent que cette taxe soit complètement supprimée de la nomenclature. D'autres estiment qu'elle peut être réduite suite à la précarité de la vie sociale. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En sport, c'est le jour J pour les deux clubs de la République démocratique du Congo, l'AS Vita Club et Tout-Puissant Mazembe, qui jouent leur match de la 4e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Vita Club accueille cet après-midi le champion en titre Al Ahly d'Égypte au stade des Martyrs de Kinshasa, sous le coup de 14h de Kinshasa. Les deux clubs se disputent la 2e place au classement. Ils ont chacun 4 points et un goal différence de plus 2 derrière Simba de la Tanzanie qui a 7 points. Et Tout-Puissant Mazembe sera reçu en Afrique du Sud par le club local de Mamelodi Sundowns. Le club sud-africain est premier avec la totalité des points 9, loin de son poursuivant direct, Tout-Puissant Mazembe, 2 points avec un goal différence de moins 1.
Actualité internationale.
Au Tigré, le système de santé risque d'être anéanti par le conflit qui se poursuit depuis novembre dernier entre l'armée régionale et des forces éthiopiennes. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières a visité 106 hôpitaux et centres de santé de la région entre décembre dernier et le début du mois de mars. 70% ont été pillés, 30% ont été mis hors usage, et ce par les forces des deux camps, avec des conséquences déjà sur la santé de la population du Tigré. La Côte d'Ivoire est toujours en deuil après la mort d'Ahmed Bakayoko, qui a succombé à un cancer en Allemagne le 10 mars. Ce mercredi, le défunt Premier ministre recevra l'hommage solennel de la nation à la présidence. La suite se déroulera au stade d'Anyama, dans le nord d'Abidjan, avec l'hommage de son parti, le RHDP, et les politiciens qui le souhaitent. Enfin, les artistes et la jeunesse auront l'occasion de saluer la mémoire du populaire Ambak jusqu'au lever du jour.
L'invité.
Sud Kivu, l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone UEFA réclame plus de justice pour le droit foncier des peuples pygmées. Cette organisation qui défend les intérêts des peuples autochtones l'a dit à la presse hier lundi à Bukavu. Elle fait allusion à la manière dont les peuples autochtones sont en train de perdre leurs droits fonciers devant les instances judiciaires. Quelle est exactement la situation des droits fonciers qui opposent les peuples autochtones aux autres communautés? Tentative de réponse avec la coordinatrice de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone, Madame Espérance Binyuki-Nyota qui s'entretient avec Emmanuel Elamejua Kabeti.
Madame Espérance Nyota, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous parlez de droits fonciers des peuples autochtones.
Oui.
Pourquoi ?
Aujourd'hui, nous nous sommes réunis afin de débattre la thématique liée dans la protection de ceux-là qui défendent le droit foncier des peuples autochtones. Nous avons observé assez d'abus autour de cette catégorie de défenseurs parce que en RDC ici, au Kivu ici encore, les conflits fonciers exacerbent tout le jour. Et au sein des juridictions, tant provinciales que locales, ce sont les conflits fonciers qui renflent le grand pourcentage. Les peuples autochtones pygmées ont des soucis quand ils défendent leurs droits à leurs terres.
On sait qu'ils réclament leurs terres auprès de l'État congolais, c'est ça?
D'une part, ils réclament leurs terres à l'État congolais qui doit trouver des mécanismes de leur rétribuer les droits fonciers qu'ils ont perdus sur leurs terres ancestrales. Il y a également un autre aspect où ce sont des membres de la communauté qui convoitent les petites portions de terre que les autochtones détiennent et qui s'en accaparent. Et ça pose problème parce que, étant dans une situation de marginalisation par les autres communautés, de marginalisation par les services étatiques, parce que quand on va à un pygmée suivre un dossier juridique, juste quand on sait que c'est un pygmée, c'est tout. Tout est vraiment biaisé. On sait que l'autre partie peut trouver de quoi donner aux agents qui travaillent dans le service, mais les peuples autochtones pygmées n'ont rien pratiquement.
Là, vous ne faites pas confiance à la justice, que la justice devra être rendue. Est-ce qu'il y a des cas pendant devant des instances judiciaires à ce jour?
Oui, je peux vous dire que je n'ai pas totalement confiance à la justice. Parce qu'il y a deux cas. Il y a deux cas qui, pour moi, ne méritaient pas les sorts dont ils ont eu aujourd'hui. Il y a la famille, par exemple, de Mubugu. Mubugu, c'est dans le territoire de Kalehe. Cette famille-là a, à l'époque de leur père ou leur ancêtre, a obtenu des terres de façon coutumière auprès de leur chef de village. Donc, ils ont acquis coutumièrement cette terre-là. Mais après le décès de leur ancêtre, les fils qui a régné s'est dit ne pas reconnaître la propriété de ces autochtones à ces terres. Et ils sont allés au tribunal de paix à Kalehe.
Oui.
Mais on les a fait des va-et-vient, jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués. Ils se sont dit, on n'a pas d'argent, on nous demande l'argent qu'on ne peut pas avoir. Et l'autre partie donne l'argent et on clôture les dossiers en défaveur des autochtones. Mais réellement, il y a des documents qui prouvent que les autochtones avaient reçu cette terre de cet ancien chef de village.
Donc d'après vous, le jugement a été mal rendu.
Mal rendu. Et je voudrais ici inciter à l'appareil judiciaire de Calais d'être juste à l'égard des peuples autochtones pygmées qui défendent leurs droits à la terre des Kachofu.
N'est-ce pas qu'il y a une loi qui venait d'être votée il n'y a pas longtemps en RDC sur les droits des peuples autochtones, les droits fonciers surtout? Est-ce que vous en savez les contenus?
Ce que vous dites est vrai. La proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale. Elle a été transmise au Sénat. Je connais les contenus de cette proposition de loi pour avoir participé à son élaboration. Donc, nous allons en faire large diffusion une fois qu'elle est promulguée par son Excellence Monsieur le Président. Nous avons foi qu'il va la promulguer. Parce que la loi, être votée, c'est une chose, mais ce que vit la communauté au quotidien, c'est une autre chose. C'est pourquoi nous voulons que la justice en soit une justice équitable pour tout le monde.
Merci beaucoup, Madame Espérance Binyuki-Nyota. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice nationale de l'UFA, l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone.
Merci. Merci beaucoup.
Cette session de nos informations se referme. Merci de l'avoir suivi. Dieudonné Nyangas a été à la mise en onde. Élisée Chikota à la coordination. Martin Sebujangwe à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur Radio Okapi.